jeudi 21 mars 2024, à mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de Studio Kalangou, au micro Nefis Adam Sirfou. De nouveaux cas de la diphtérie sont enregistrés à Arlit. À la date d'aujourd'hui, environ 12 décès selon le médecin-chef du district sanitaire d'Arlit. À suivre dans le volet Ramadan, les conseils d'un nutritionniste sur les aliments à privilégier à la rupture du jeûne. Et dans le magazine du jour, nous verrons comment la municipalité de Kouégolo s'attelle à la résolution du conflit foncier qui oppose deux villages depuis un an. Le département d'Arlit a enregistré le premier cas de diphtérie le 13 octobre 2023. Selon Dr Zakou, médecin-chef du district sanitaire d'Arlit, cette maladie infectieuse, bactérienne et contagieuse sévit chez les enfants de 0 à 15 ans. Elle peut survenir chez les adultes aussi. Il est au micro de Gunku Mahamad Dantani.
La maladie qui sévit actuellement à Arlit, c'est la diphtérie. Nous avons entendu, les gens disent Iska, d'autres disent Daji. Vraiment, ce n'est rien d'autre que la diphtérie, que tout le monde connaît. En Hausa, ça s'appelle Machap. Ce n'est vraiment pas autre chose. Les prélèvements ont été envoyés à Niamey, ça a été confirmé positif. Et ce n'est pas seulement Arlit qui est concerné. Tous les 112 districts sanitaires du pays sont atteints par cette pathologie-là. Et ça fait presque 6 mois de cela que ça a commencé. Le premier cas Arlit a été enregistré le 13 octobre 2023. L'âge de prédiction de la maladie, c'est les enfants qui sont âgés de 1 à 15 ans. Mais tous les âges sont concernés. Seulement, c'est très, très rare chez l'adulte. Ça touche beaucoup plus les enfants. Et les enfants qui ne sont pas vaccinés. Parce qu'aujourd'hui, tous les cas que nous avons enregistrés actuellement, tous, on n'a pas de statut vaccinal connu. Certains. En 2023, nous avons enregistré 14 cas. Malheureusement, avec 3 décès. En 2024, nous avons enregistré 32 cas avec 9 décès.
Volet Ramadan, rester une journée entière à jeun peut parfois entraîner une mauvaise haleine. Même si cette dernière équivaut à celle du musc auprès d'Allah, ce n'est pas une raison pour se soustraire de l'hygiène buccale, explique Malama Amina Aliou, prédicatrice en islam. Elle est interrogée par Hawa Ousmane.
Pour ce qui est du fait de se laver la bouche avec une brosse, en fait, d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la laine du jeûneur est meilleure que celle du musc auprès d'Allah. Et le musc, en fait, c'est l'un des parfums du paradis. Mais ça, ce n'est pas une raison pour laisser sa bouche sale, sans la nettoyer. Se brosser les dents est permis. Vous pouvez vous brosser les dents avec du dentifrice si vous êtes sûr de ne pas en avaler. Mais le mieux, c'est de le faire juste après le souhour. Et là, vous serez à l'aise jusqu'à la rupture. Mais si vous oubliez de le faire après le souhour, vous pouvez aussi le faire, mais assurez-vous de ne pas en avaler. Et Dieu est plus savant.
Et pendant ce mois de Ramadan, les jeûneurs ont tendance à beaucoup manger toutes sortes de nourriture. Les spécialistes conseillent de contrôler son alimentation lors de la rupture, cela pour le bon fonctionnement de l'organisme. Dr Abdelrazak Bello, nutritionniste, explique les aliments recommandés à la rupture au micro de Hassan Nour Abdelrahman.
C'est vraiment d'aller de l'aliment les plus légers aux aliments les plus lourds. Donc en ce sens, lorsque on parle de l'aliment le plus léger, l'utilisation de la date au moment de la rupture se justifie comme la date est un aliment qui est léger et qui a d'autres éléments nutritifs. Après la date, l'eau au lieu des boissons sucrées. L'eau en quantité importante, mais avec des consommations réparties sur toute la nuit. Les boissons sucrées, oui, mais à faible dose, 2 à 3 verres, c'est largement suffisant. On consommera également les fruits et les légumes. Lorsque on a fait ceci, on peut aller vers le plat familial qui est généralement le plat solide. Parce qu'il faut permettre à l'organisme à ce qu'il puisse redémarrer en douceur.
La suite de ce journal, ce jour 21 mars, le commissariat à l'organisation du Hajj de la Umra Koho a procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des compagnies aériennes qui vont assurer le transport des futurs pèlerins au Hajj. Gibrima Ali Boukar, communicateur du Koho, explique au micro de Habiba Ahmed.
Aujourd'hui, nous avons procédé à ce tirage au sort de l'ordre de passage pour le transport des pèlerins de cette année. Tout s'est très bien passé. Nous avons 16 groupes d'agences de pèlerinage qui ont tiré du premier jusqu'au dernier. Mais cet ordre est conditionné par le paiement du transport. Parce que jusque-là, il y a des agences qui n'ont pas fini de payer le transport. Même si on a les premiers numéros, si on n'arrive pas à honorer les engagements vis-à-vis du transport, on risque de se voir refuser cet ordre. Nous avons cette année deux compagnies qui nous ont proposé des dates. Et probablement le premier vol va se dérouler le 25 mai 2024.
En bref, la production des cartes grises est suspendue provisoirement sous l'ancienne dénomination du ministère suite à la fusion du ministère des Transports et celui de l'Équipement. C'est ce qui ressort de la note d'information rendue publique le 19 mars par la Société nigérienne de logistique automobile Sony Loga à l'intention des usagers du guichet unique automobile du Niger. Toutefois, le reçu des droits de passage fera office de carte grise jusqu'à nouvel ordre et les véhicules immatriculés auront leur plaque à poser conformément aux procédures habituelles d'après la note. En région, évaluer les points de suivi des flux des migrants et identifier d'autres est l'objectif d'une rencontre organisée ce mercredi 21 mars à Agadez par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le ministère de l'Intérieur et les acteurs intervenant dans la migration. L'État nigérien doit avoir ses propres statistiques des entrées et sorties des migrants, déclare Mme Mouhabinta, directrice nationale de la migration. Elle est au micro de Moussa Maman.
L'OIM a installé des points de suivi des flux migratoires, les entrées et les sorties des migrants. Nous avons notamment à Sigidine, à Samakar. Maintenant, on est venu pour évaluer ces points de suivi et voir aussi si on peut encore ouvrir d'autres points de suivi là où il y a la mobilité forte. C'est un outil de l'OIM qu'ils appellent DTM. C'est ce DTM-là qu'on est venu évaluer au niveau de la région d'Agadez. C'est une évaluation pour pouvoir identifier d'autres points de suivi. Puis la nécessité de ces points de suivi nous permettent de disposer de statistiques sur la migration. Et dans le même ordre d'idée, moi j'ai interpellé l'OIM pour que cet outil soit mis à la disposition de l'État, pour que l'État puisse collecter ses propres données. Donc nous sommes dans ce processus-là. On va bientôt entamer des discussions pour voir dans quelle mesure ce DTM peut être concédé à l'État, que l'État dispose également de ses propres statistiques.
Toujours en région, ouverture hier de la première session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance d'Arlit pour l'année en cours. 6 dossiers sont inscrits au rôle, dont 3 affaires de coups mortels, dont 1 avec arme, 2 affaires de vol criminel et 1 affaire de meurtre, ayant pour objectif de faciliter et d'exécuter un délit. La session va durer 4 jours du 20 au 24 mars. Zakari Mamansani, procureur du tribunal d'Arlit, est au micro de Gungu Mahaman Dantani.
6 dossiers sont inscrits au rôle, dont 3 affaires de coups mortels, dont un cas avec arme, 2 affaires de vol criminel et une affaire de meurtre ayant pour objet de faciliter et d'exécuter un délit. Ces affaires seront examinées et jugées conformément à la loi par la chambre criminelle d'Arlit.
Nous restons toujours dans la région d'Agadez où la commune d'Agadez vient d'être dotée d'un centre de transformation et de valorisation des déchets plastiques produits sur place. Cela dans le souci de protéger l'environnement et réduire les dépenses dans la gestion des déchets de la commune. Une vision de la municipalité en collaboration avec une organisation non gouvernementale de la place. Explication avec Al-Mahadi Mohamed, chargé de communication à la mairie d'Agadez. Il est au micro de Aniseka.
La commune s'est engagée dans un processus de plan de gestion des déchets. C'est dans ce sens que, avec l'accompagnement des partenaires, il y a eu ce centre que vous voyez ici, équipé et appuyé avec du matériel pour valoriser le plastique. Et en même temps, il y a des formateurs qui sont venus pour dispenser des formations. Donc ce que vous voyez ici au niveau du centre sur comment recycler les déchets plastiques en pavé. Donc c'est ce que vous voyez dehors. Il y a des machines qui sont là pour ce recyclage des déchets plastiques. Donc c'est un centre ici-là qui sera équipé avec d'autres matériels qui ne sont pas encore arrivés et qui permettra à la commune de les recycler, de les valoriser en produits qui peuvent être utilisés, soit du pavé, soit autre chose. Ça va un peu permettre à la commune de réduire ses dépenses sur le volet gestion des déchets. Il va beaucoup participer à la réduction de ces déchets-là parce qu'ils seront valorisés au niveau de ce centre.
Parlons culture, lancement hier à Agadez du Taché en Hausa, une tradition ancestrale célébrée chaque année au 10e jour du mois de Ramadan et qui durera 17 jours. Cette tradition consiste au déguisement des jeunes en clowns. Ceux-ci vont de porte en porte sous des pas de danse, chantant l'importance de l'aumône en ce mois de Ramadan. La signification de Taché et sa place dans la société musulmane avec Aboubakar Amma, un conservateur de la tradition à Agadez. Il est interrogé par
C'est une tradition qui dure depuis longtemps et qui n'est pratiquée qu'en ce mois béni de Ramadan. Donc c'est d'année en année. C'est une pratique qui rappelle l'amitié, le don, la charité, se distraire entre les membres de la famille. Cette tradition est en voie de disparition. Nous avons vu que ce n'est pas normal. Elle fait partie des traditions que nous devons ramener. Ça attire l'attention des jeunes à venir écouter les dirigeants par rapport à l'éducation. C'est une tradition qui permet de se sentir à l'aise, car tous les bons actes que tu poses te rapprochent du paradis. C'est très important. C'est un facteur de cohésion sociale. Ça aide la personne à comprendre la valeur de la charité et du don au sein de la communauté.
Et du sport dans ce journal, dans le cadre des journées FIFA où des matchs sont organisés entre différentes équipes nationales de football sur le continent ou ailleurs, l'équipe nationale du Niger Mena A affrontera les éperviers du Togo demain 22 mars au stade El Béchir de Mohamedia au Maroc. Le sélectionneur national Badou Zaki a indiqué que l'objectif de cette rencontre est de tester les automatismes de ses joueurs. Il est joint par Salamat Kadri.
Ce serait très important pour nous, n'importe le résultat, mais la performance de l'équipe et des joueurs, soit individuels ou collectifs, qui me concerne, et pour garder les bonnes choses et améliorer les choses qu'on va travailler avec après. Mais on va rencontrer une équipe difficile, une équipe qui se défend très très bien, une équipe qui font des contre-attaques et des attaques rapides très vite. Je l'ai vu contre le Sénégal, c'est une très bonne équipe, c'est une équipe à respecter et c'est un très bon test pour nous pour mesurer la qualité de notre joueur, soit collectif et soit individuel. Donc on veut gagner, mais si on ne gagne pas, on va travailler sur les choses qu'on a failli sur ce match pour être prêt au jour J.
Magazine de ce journal, les conflits entre agriculteurs et éleveurs au Niger sont récurrents, surtout avant les récoltes des campagnes agricoles. La commune rurale de Koyoglo dans le département de Boboy connaît ce type de conflit. Les autorités municipales sont actuellement sur un cas qui oppose deux villages, l'un agricole et l'autre pasteur. Selon Mme Biba Saini, maire de Koyoglo, les sensibilisations sont menées auprès de tous les acteurs pour une bonne gestion de cette crise. Elle est au micro de Oumou Marou.
Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans la commune de Koyoglo?
Dans la commune de Koyoglo, nous rencontrons des difficultés avec la cohabitation entre les éleveurs et agriculteurs. L'année dernière, nous avons rencontré assez de difficultés à la fin de la saison agricole. Les agriculteurs ont fini leurs travaux et au moment où ils s'apprêtaient à faire leur récolte, des éleveurs sont descendus dans les champs détruisant toute la production. Cela a créé un conflit qui a engendré hélas des morts. Deux dans ma commune et une personne dans la commune de Taxar, puisque ma commune de Koyoglo et la commune de Taxar sont frontalières. La majeure partie de la population de Koyoglo à ses champs dans la commune de Taxar, dans un village appelé Yeda. Nous avons réuni les différents chefs de village pour un forum. Nous sommes allés faire des séances de sensibilisation, mais les animaux étaient déjà descendus avant notre arrivée.
Quelles sont les actions que vous menez pour que les agriculteurs et les éleveurs vivent en harmonie?
Nous faisons de la sensibilisation pour les agriculteurs et éleveurs et tout autre acteur afin qu'ils puissent trouver un consensus entre eux. Pendant la saison pluvieuse, les agriculteurs doivent vite libérer les champs et les éleveurs de patienter avant la libération des champs. L'année dernière, les animaux sont descendus précocement avant que les agriculteurs ne commencent les récoltes et c'est ce qui a conduit au conflit. Toi qui as mis tout tes efforts pour cultiver et tu perds ta production. Cela est vraiment compliqué. Maintenant, nous essayons de trouver un consensus entre les deux parties. Nous faisons des sensibilisations afin que chacun puisse apporter sa contribution.
Grâce aux efforts que vous fournissez, y a-t-il eu de changement entre les deux parties?
Nous souhaitons que Dieu apporte la paix entre nous et apaise les cœurs. Je lance un appel au gouvernement afin qu'il puisse nous aider dans la sensibilisation, car nous sensibilisons les agriculteurs et les éleveurs pour qu'ils puissent s'entendre. Lorsque la saison pluvieuse sera de retour, les cultivateurs doivent avoir à l'esprit vite récolter et les éleveurs de ne pas introduire leurs animaux dans les champs avant la libération des champs.
Fin de ce journal, merci de votre attention.